C'est une grande joie pour moi d'accueillir aujourd'hui Marie-Claude Barbier, puisqu'elle a été mon professeur à l'École normale supérieure de Cachan. Et donc je peux dire que c'est mon alma mater, et au sens intellectuel et aussi au sens très très littéral, de mère nourricière à différents niveaux. Une présence très, très maternelle et très, très, très encourageante dans mes études. Et plus récemment, nous avons découvert que nos recherches ont convergé sur les missionnaires en Afrique australe. Alors Marie-Claude Barbier est agrégée d'anglais et maître de conférences honoraire à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, maintenant c'est comme ça qu'elle s'appelle, anciennement École normale supérieure de Cachan. Et elle dirigeait le département de langue quand j'étais élève, et elle enseignait la traduction et la civilisation du Commonwealth. Après une thèse sur le bilinguisme et l'immersion en Ontario et des travaux en études canadiennes, elle a, à partir de 1995, orienté sa recherche sur l'Afrique du Sud. Elle a écrit de nombreux articles sur ce pays, des articles dans Cultures of the Commonwealth, des chapitres d'ouvrages sur les questions ethnolinguistiques et historiographiques en Afrique du Sud, sur la légitimation théologique de l'apartheid et sur les identités dans la nouvelle Afrique du Sud. Plus récemment, elle a élargi son domaine à toute l'Afrique australe, et elle s'est intéressée en particulier au rôle de plusieurs missionnaires protestants français et britanniques en Afrique du Sud, au Lesotho et en Zambie, qui ont été au premier plan de l'abolition de l'esclavage et de l'éducation africaine. En 2012, elle a publié un ouvrage intitulé « Un Béarnais en Afrique australe » ou « L'extraordinaire destin d'Eugène Casalis », traduit en anglais chez Cambridge Scholars Publishing sous le titre de « From Béarn to South Africa, or the Amazing Destiny of Eugène Casalis ». La sortie du livre fut suivie par un colloque international au Lesotho, qu'elle a co-organisé pour commémorer le 200e anniversaire de la naissance de Casalis. En 2016, elle a publié également la première biographie en français de David Livingstone, chez Ellipse. Aujourd'hui, elle va interroger la vie et l'héritage d'Eugène Casalis, 1812-1891, Eugène Casalis, au regard du thème de la mémoire, thème de notre séminaire de recherche depuis quelques années au sein de notre laboratoire Eribia. Le timbre commémoratif émis par le Lesotho en 1983 pour commémorer le 150e anniversaire de l'arrivée des missionnaires témoigne d'une mémoire positive allant à l'encontre des représentations convenues d'agents de la colonisation. Et donc c'est le contenu de cette mémoire que nous allons découvrir aujourd'hui. La parole est
merci Alexandra, merci Bertrand de m'avoir invitée, je suis très heureuse d'être là. Alors je suppose que vous n'avez pas beaucoup de connaissances sur l'Afrique du Sud, donc je vais commencer peut-être par vous donner un petit peu d'arrière-plan historique sur ce pays, et peut-être pour m'intégrer tout de suite dans le thème donc, de mémoire et oubli, vous dire comment j'en suis venue à travailler sur ce personnage, donc Eugène Casalis, que je ne connaissais pas du tout jusqu'à une époque assez récente. Et ça s'est fait de la façon suivante, donc vous savez qu'en 1994, donc, il y a eu lieu un événement extrêmement important pour l'Afrique du Sud, à la suite de la fin de l'apartheid qui était intervenue juste 2-3 ans avant, il y a eu les premières élections libres en Afrique du Sud, à la suite desquelles donc, le parti de l'ANC, African National Congress, est arrivé au pouvoir, a été élu donc, aux élections, et ils ont donc ils ont proposé Mandela comme président de la République. Donc Mandela est devenu président de la République en 1994. Pour la première fois, on avait un gouvernement africain en Afrique du Sud, après près de 3 siècles de colonisation blanche, et ce lourd passé de l'apartheid. Donc il y avait beaucoup de tâches qui s'offraient à ce nouveau gouvernement, et l'une qui m'a particulièrement intéressée était au niveau éducatif, bien sûr, comment faire au niveau d'éducation pour donner aux Africains qui avaient quand même été coupés pendant assez longtemps d'une éducation correcte à la blanche, pour leur redonner un certain sens donc de leur identité, de leur histoire et une certaine fierté à être africain. Alors à ce moment-là, donc, il y a un groupe d'historiens en Afrique du Sud qui se sont intéressés à la réécriture de l'histoire en Afrique du Sud. Donc un sujet donc, tout à fait passionnant. Et j'avais pris contact à ce moment-là, donc j'allais un peu régulièrement en Afrique du Sud, avec ce groupe d'historiens qui travaillait. Et il m'avait donné un proverbe africain que j'ai trouvé très joli comme exemple, en disant, alors je vous le dis, c'est en anglais, « Until lions have historians, tales of history will always glorify the hunters. » Alors, je ne sais pas si vous voyez le rapport, mais l'idée, donc, c'est que tant que les lions n'auront pas d'historiens, l'histoire sera toujours racontée par les chasseurs. Donc, si on le transpose dans la nouvelle Afrique du Sud, ça veut dire que tant que, finalement, les Africains qui n'ont pas eu droit au chapitre pendant de très, très nombreuses années, pendant des décennies, tant qu'ils n'auront pas eux-mêmes des historiens, mais l'histoire, ce sera celle des Blancs, de ceux qui ont colonisé. Donc, ils avaient appliqué ça au niveau de l'histoire d'Afrique du Sud. Ils ont donc reconsidéré cette perspective uniquement blanche qui avait été celle des manuels d'histoire pendant donc des décennies, en se disant qu'il fallait donc commencer à voir un point de vue africain, c'est-à-dire que tout ce qui était victoire jusque-là n'était pas forcément victoire pour tout le monde, et tout ce qui était héros jusque-là, c'était essentiellement des héros blancs, et il serait peut-être temps de s'intéresser à des héros, enfin des personnages un petit peu charismatiques africaines. Et c'est donc en travaillant sur ce thème qu'on est tombé sur ce personnage, donc il s'appelait Moshoeshoe. Donc il y avait un certain nombre de héros bantous. Alors bantou est le terme qu'on utilise pour utiliser les Africains noirs. Donc il y avait un certain nombre de héros bantous qu'on voulait remettre un petit peu à l'honneur. Et parmi eux, donc il y avait un personnage qui s'appelait Moshoeshoe, dont je n'avais jamais entendu parler, auquel donc je me suis intéressée de plus près. Et ce Moshoeshoe répondait aussi à une des interrogations que j'avais eues, à savoir que c'était le roi du Lesotho. Ça va ? Et le Lesotho, est-ce que vous savez ce qu'est le Lesotho, ou est-ce que vous avez déjà vu une carte d'Afrique du Sud ? Le Lesotho, c'est tout à fait étrange, c'est une petite enclave, un royaume, inclus au beau milieu du territoire d'Afrique du Sud. Donc je m'étais toujours dit, comment se fait-il donc qu'il y ait cette enclave royaume au milieu d'une république blanche et une enclave, voilà. Et la réponse était que c'était grâce à ce roi Moshoeshoe, mais pas seulement à ce roi Moshoeshoe, mais au fait qu'un missionnaire protestant français l'avait aidé justement à consolider son royaume. Donc c'est comme ça, c'est par le biais donc de cette réécriture de l'histoire en Afrique du Sud que je suis tombée donc sur le rôle important du missionnaire Casalis. En fait, laissez donner un petit peu de temps.
Un sujet
passionnant. Alors, je vous dis tout de suite, c'est très interactif. Si ce que je dis n'est pas parfaitement clair pour vous, dans la mesure où vous n'avez pas trop de connaissances sur l'histoire, n'hésitez pas à intervenir et je peux bien sûr apporter au fur et à mesure des explications. Alors, ce que je disais au départ, donc, c'est que sachant que la plupart d'entre vous n'avez pas beaucoup de connaissances en histoire d'Afrique du Sud, je voudrais quand même vous redonner un petit peu de contexte, puisque Eugène Casalis va intervenir en Afrique australe à partir de 1833, et qu'il s'est passé bien des choses avant qui expliquent aussi sa venue. Donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu peut-être ce qui s'est passé. Alors, Alors ça, c'est une version plus jeune d'Eugène Casalis par rapport à celle qui est sur les affiches. Et je vais commencer par cette carte. Parce que vous n'avez jamais pensé à ça, mais l'Afrique, vous voyez, qui est tout à fait proche des côtes européennes, en fait, est restée méconnue extrêmement longtemps. On peut dire que jusqu'au XVe siècle, ce qu'on connaissait de l'Afrique, c'était essentiellement le pourtour méditerranéen, bien sûr, et la partie un peu vers la mer Rouge, mais la côte de l'océan Atlantique était totalement inconnue. Et elle était très inconnue, il y avait une raison quand même un peu particulière, je vais essayer de vous montrer avec la carte, Alors vous voyez ici, il y a quelque chose qui s'appelle le Cap Bojador. Et ce Cap Bojador, c'était quelque chose de mythique chez les marins, parce que jusqu'en le milieu du XVe siècle, tous les navires qui avaient essayé de franchir le Cap Bojador n'étaient jamais revenus. Donc ils disparaissaient. Et dans l'imaginaire des marins, donc, on estimait que c'était la limite de la terre connue et que de l'autre côté, il y avait des gouffres avec des monstres marins qui dévoraient les bateaux. Donc il y a un moment, on a arrêté d'envoyer des bateaux au-delà. Et il a fallu donc toute l'insistance d'un roi du Portugal qui s'appelait Henri le Navigateur, qui a été un très très grand roi du Portugal, qui a vraiment promu cette espèce de découverte de l'Afrique, pour qu'on puisse aller au-delà. Alors, il faut dire que pourquoi aussi la découverte de l'Afrique à ce moment-là, donc je ne sais pas si vous situez le XVe siècle, on était, il y avait cette recherche depuis le Moyen-Âge en Europe des épices. Donc il y avait ces routes des épices qui étaient un petit peu comme la route de la soie qui passait par l'intérieur pour aller en Inde. Il y avait aussi une route par la Méditerranée et par le golfe Persique qui allait en Inde. Mais tout ça, il y avait des monopoles. Il y avait le monopole des marchands arabes dans la mer Rouge. Il y avait les problèmes avec l'Empire ottoman par la route de la soie par la terre. Donc les Portugais se sont dit, il faut qu'on trouve une route vers les épices où on échappe à tous les monopoles. Donc ce roi Henri a lancé l'impulsion. Et il y a eu un deuxième facteur, et ça nous ramène au Cabojador, c'est qu'à partir de 1430, les Portugais ont eu ces bateaux qu'on appelle des caravelles, vous avez dû en entendre parler pour Christophe Colomb, qui étaient des bateaux beaucoup plus lourds, beaucoup plus résistants, avec beaucoup plus de voilure que ceux qu'il y avait précédemment. Et enfin, ils ont pu passer ce Cabojador, parce que, en fait, il y avait un phénomène qui expliquait ce qui s'était passé précédemment. À partir du Cabojador, il y a des courants extrêmement puissants qui amènent les bateaux vers l'Amérique du Sud. Donc les petits bateaux précédents n'avaient pas la force de résister à ces courants. Ils étaient emportés, ils ne revenaient plus. À partir de l'arrivée des caravelles, ça ouvre la voie à la découverte de l'Afrique. Donc vous voyez, ça c'est les découvertes portugaises. Donc les Portugais vont descendre petit à petit le long de l'Afrique, en espérant chaque fois qu'il y avait un fleuve, ils disaient ça y est, c'est le passage vers l'Inde et vers les épices. Et puis non, il a fallu aller donc très 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 bas. Et en 88, donc 1488 est une date importante pour en ce qui nous concerne, parce qu'en 1488, donc on arrive, vous voyez, au bout de toute une série de cabotages le long, on va franchir pour la première fois le Cap de Bonne-Espérance qui est ici. Alors le Cap de Bonne-Espérance, d'un point de vue géographique, c'est l'endroit où l'océan Atlantique et l'océan Indien se rejoignent. Donc c'est une zone un peu de turbulence, mais dès qu'on franchit ce cap, on rentre dans les eaux de l'océan Indien, et donc ce sont des eaux plus calmes. Donc finalement, en 1488, Bartolomeo Dias, donc un Portugais, va franchir ce cap de Bonne-Espérance et il va accoster finalement à cet endroit qu'on appelle Mossel Bay, qu'on appelle aussi la baie d'Algoa, donc un peu plus loin. Et là, ils vont rencontrer les premiers autochtones. Alors, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, parce qu'elles ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique australe, les premiers autochtones, ce n'étaient pas des Bantous, donc ce n'étaient pas des Noirs. Toute l'Afrique australe, donc en gros, cette région au sud de l'Orange, même un petit peu plus haut, et comme ça, qui allait à peu près comme ça, était occupée donc, par des peuples aborigènes qu'on appelle maintenant les Khoisan. Donc il y avait d'une part les Khoikhoi, qui étaient des éleveurs de bêtes, et il y avait les San, qui étaient des chasseurs-cueilleurs nomades. Ces peuples ont été rebaptisés par les Européens qui ne s'intéressaient pas trop au nom qu'on donnait à cette époque-là. Et les Khoikhoi, c'est ce qu'on a appelé par la suite les Hottentots. Alors vous avez peut-être entendu parler des Hottentots, non, ça ne vous dit rien. Il y a eu un événement un peu spectaculaire en 2002, mais vous étiez encore très jeune. On a rapatrié en Afrique du Sud le corps d'une dame qu'on appelait la Vénus Hottentote, qu'on avait au musée d'histoire naturelle, et il y a eu donc de très très grandes cérémonies à ce moment-là. Donc les Hottentots, c'était des peuples aborigènes, et les San, c'est ce qu'on a appelé, et qu'on appelle toujours les Bushman. On en trouve maintenant essentiellement dans le nord de l'Afrique du Sud, au Botswana, et surtout en Namibie, dans le désert du Kalahari. Donc, ils ne sont pas noirs de peau, ils ont une peau beaucoup plus claire, un peu cuivrée, ils ont des cheveux très très crépus, qu'on appelle en grains de poivre, et surtout, et ça va être important pour la suite, ils parlent une langue à base de clics. Alors ça fait... Il y avait une centaine de clics qui étaient d'avant en arrière et qui allaient aussi sur les côtés, donc assez difficile, qui ont d'ailleurs contaminé certaines langues bantoues, on en parlait à midi. Les premiers peuples bantous les plus bas, comme les Xhosa ou les Zoulous, Xhosa c'est la tribu de Mandela, et l'ethnie de Mandela, et les Zoulous, ont incorporé des clics de ces peuples aborigènes dans leur propre langue bantoue. Donc, et cela va faire dire aux Portugais que dans le journal de bord, ils consignent que est-ce que ce sont vraiment des hommes ? Parce que déjà, ils sont à moitié nus, ils avaient l'habitude de porter des boyaux de bêtes autour du cou, et ils avaient cette langue à clic qui leur paraissait pas tout à fait humaine. Donc il y a déjà cette déconsidération qui va se poser là, en se disant est-ce que c'est Hottentot, donc ne serait pas le chaînon manquant un peu entre l'homme et le singe. Alors, en 1488, ce qui se passe, donc, Bartolomé Dias accoste à Mossel Bay, rencontre ses premiers indigènes, va d'ailleurs troquer un peu de bétail avec eux, ils avaient surtout des moutons à longue queue et des bœufs, Mais l'équipage en a complètement marre et ils veulent rentrer au Portugal, donc ils repartent au Portugal. Et entre-temps, donc, vous rappelez, les Espagnols cherchaient aussi un chemin vers la route des épices, donc ils vont envoyer Christophe Colomb vers l'Amérique qui ne va pas trouver l'Inde. Il croit trouver l'Inde, mais ce n'est pas l'Inde. Ce qui fait que les Portugais relancent cette idée donc, de contourner l'Afrique pour arriver en Inde. Et en 1498, pour la première fois, donc, les Portugais vont contourner le sud de l'Afrique, voyez, vont remonter par ici, Quelimane, qui est le Mozambique actuel, qui est une ancienne colonie portugaise, vont remonter un peu plus haut et vont traverser vers l'Inde. Donc ils ont cette fois-ci le monopole d'une route vers les épices. Alors, dans le sillage, bien sûr, de ces bateaux portugais, il va y avoir pas mal d'autres puissances européennes qui vont s'engouffrer pour aller vers la route des épices par là. Et en particulier, donc, il va y avoir quelques navires français, mais beaucoup de navires à la fois anglais, qui bien sûr ont déjà des vues sur l'Inde, et des néerlandais, ce qui est moins connu, donc des hollandais, qui ont un commerce, qui vont établir un commerce très fructueux avec la Malaisie et avec l'Indonésie. Donc pendant plusieurs décennies qui suivent donc cette date de fin du 15e siècle, des navires vont passer. Alors vous imaginez le voyage entre l'Europe et l'Inde en passant par le sud de l'Afrique. Il fallait faire des escales pour se ravitailler en eau, en nourriture, etc. Et il fallait donc, on s'arrêtait de façon un peu aléatoire à droite ou à gauche sans trop savoir ce qu'on allait trouver. Et c'est comme ça que les Hollandais donc, vont avoir une idée géniale. Et ça, c'est une date importante pour l'Afrique du Sud. En 1652, ils vont décider de créer une station de ravitaillement pour leurs bateaux. Alors exactement dans la baie du Cap. Alors vous voyez, il y a le Cap qui, on ne voit pas très bien évidemment sur une carte aussi peu précise. On est là. Il y a une péninsule au Cap. Et il y a un côté océan Indien où il y a une grande baie avec des eaux calmes au pied de la montagne de la Table, c'est très joli en plus, où il y a de l'eau douce, il y a beaucoup de fruits exotiques et il y a donc des éleveurs hottentots qui sont prêts à vendre du bétail. Donc les Hollandais se disent, on va créer une station, non pas, ils ne pensent pas du tout à la colonisation à ce moment-là, une station où nos navires pourront à coup sûr s'arrêter, se reposer et faire le plein dans des bonnes conditions. Et dans la foulée, bien sûr, des bateaux hollandais, d'autres bateaux, les bateaux néerlandais, les portugais, les français, les anglais, feront la même chose. Ce qui fait qu'un certain nombre de Hollandais se disent, mais dans le fond, on a besoin de plus en plus de ravitaillement pour ces bateaux, donc on pourrait utiliser des terres pour semer, pour faire du fermage, en somme, et vendre ensuite aux bateaux. Alors, ces premiers Hollandais qui se sont installés autour du Cap, enfin le Cap qui ne s'appelait pas le Cap, c'est la péninsule qui s'appelait comme ça à l'époque, vont prendre le nom de Boer. Alors, est-ce que vous connaissez ce nom de Boer, qui est B-O-E-R, S au pluriel, qui veut dire fermier en hollandais. D'ailleurs, en anglais, vous avez le même terme, il y a Boer, qui ne s'utilise plus beaucoup maintenant, qui veut dire aussi fermier. Et il y a en anglais le terme Boerish, qui veut dire rusto, un peu paysan, oui, ce sens-là. Donc c'est le même terme en hollandais, donc le Boer. Donc les Boers vont commencer à occuper de la terre, donc tout autour finalement de la région du Cap, bien entendu, vous l'imaginez, au détriment des indigènes hottentots et de leur bétail, qui vont être poussés au fur et à mesure de l'avancée des fermiers Boers, ils vont être poussés vers l'intérieur. Alors, à ces fermiers Boers, je fais une petite parenthèse, mais c'est lié à Eugène Casalis. Donc là, on est en 1652, première implantation hollandaise au niveau de la colonie du Cap. En 1688, il va se passer quelque chose en France qui va avoir des répercussions en Afrique du Sud. Est-ce que ça vous dit quelque chose, 1688, Louis XIV, qui va passer une loi qui va poser des problèmes? Alors, je vous le dis, donc il s'agit de la révocation de l'édit de Nantes. Alors, 100 ans plus tôt, Henri IV, roi de France et de Navarre, avait décidé donc de rendre après les guerres de religion, de rendre la liberté de culte, de mettre une liberté de culte en France. 100 ans plus tard, Louis XIV donc, supprime cet édit de Nantes et va donc envoyer à l'exil un certain nombre de protestants. C'est-à-dire qu'il faut soit abjurer sa religion, soit partir. Donc beaucoup de protestants vont partir dans ce qu'on appelait les pays du refuge, donc les pays protestants autour de nous, l'Allemagne, l'Angleterre, mais aussi un certain nombre vont partir aux Pays-Bas, qui est en train de s'implanter donc à la colonie du Cap, ce qui fait qu'en 1688, 187 huguenots français, alors huguenots est le terme qu'on donnait pour les protestants à l'époque, vont s'embarquer pour la colonie du Cap avec dans leur bagage de la vigne. Et c'est eux qui vont implanter donc les premiers vignobles en Afrique du Sud qui sont maintenant extrêmement prospères et l'Afrique du Sud produit un très très bon vin. Et donc à l'origine il y avait ces huguenots français. Alors, je vais passer très vite sur le développement de la colonie. Donc, au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux bourgs et des besoins de plus en plus importants, donc des navires qui faisaient escale, ces bourgs vont occuper de plus en plus d'espace. Et je vais arriver à une deuxième date extrêmement importante donc, dans l'histoire de l'Afrique du Sud et de Jeanne Casalis aussi, quand même. C'est la date de 1815. Donc, en 1815, il va se passer la chose suivante, c'est la fin de l'épopée napoléonienne. Il y a un congrès à Vienne qui reconsidère un peu le sort de l'Europe et aussi accessoirement de territoires dépendants de puissances européennes. Et à ce moment-là, les Anglais vont racheter la colonie du Cap aux Hollandais. Donc la colonie du Cap va passer donc de mains hollandaises à des mains anglaises et donc va passer sous gouvernance anglaise avec une reine d'Angleterre donc, comme chef d'État. Et surtout, alors ils vont envoyer dans la foulée donc des missionnaires sur place. Et l'un de ces missionnaires en particulier, qui va être un peu le surintendant des missions en Afrique du Sud, va découvrir avec horreur que les populations locales, donc essentiellement les Hottentots et les Bushmen, mais aussi qu'entre-temps, ces bourgs avaient fait venir beaucoup d'esclaves de Malaisie, d'Indonésie, donc des anciennes les possessions néerlandaises, mais aussi de Madagascar, de Mozambique et d'Inde. Et donc il y avait énormément d'esclaves sur place. Alors vous savez que les Anglais ont été très pionniers dans le combat pour l'abolition. Mais alors la traite avait été abolie en 1806 en Angleterre, mais l'esclavage perdurait en dépit de la traite. Et donc ce missionnaire anglais qui s'appelait le docteur Philip va entreprendre une vaste campagne donc en Afrique du Sud, où il n'est pas très bien accueilli bien sûr, mais en Angleterre surtout, pour mobiliser l'opinion publique, pour qu'on se débarrasse de l'esclavage, pour qu'on mette fin à l'esclavage. Et c'est ce qui va se passer en 1833, donc fin de l'abolition de l'esclavage. Donc il y a un certain nombre de bourgs qui ne sont pas du tout contents de la situation et qui estiment qu'ils ont déjà supporté un souverain étranger et qu'en plus on les empêche de vivre comme ils souhaiteraient vivre sur leur ferme avec des esclaves. Donc à partir de là, à partir de 1933, l'année suivante, va s'opérer donc ce qui est un grand événement, une espèce de mythe de l'histoire de ces bourgs qu'on appelle aussi, ceux qui restent urbanisés, on les appelle les Afrikaners par la suite. Donc il faut se méfier, Afrikaner ne renvoie pas à... Enfin, ce n'est pas les Africains, ce sont les descendants de Hollandais, mais plus ou moins urbanisés, le bourg restant le descendant de Hollandais qui restait donc fermier. Ou, voilà. Donc un certain nombre de ces bourgs va décider qu'ils ne supportent pas donc, et l'abolition de l'esclavage, et la souveraineté étrangère et l'abolition de l'esclavage, et ils vont partir donc pour une espèce de grande épopée qui va les amener. Alors ils vont partir donc du Cap, de la région du Cap disons, j'ai un peu de mal avec ma carte, et ils vont monter vers le côté océan Indien. Alors pourquoi? Parce que à ce niveau-là, du côté atlantique, il y a d'une part ici un désert qui s'appelle le Karoo, et un peu au-dessus il y a le désert du Kalahari. Donc il n'y a pas grand-chose à, on peut pas tellement occuper de la terre là. Mais de l'autre côté, par contre, il y a le Natal et puis de la région de la rivière Orange du Limpopo, où il y a beaucoup de terres fertiles. Ils vont partir alors un peu comme le mouvement vers l'ouest que vous avez dû étudier, c'est-à-dire avec des chariots bâchés tirés par des bœufs. Et ils partent avec leur Bible et la conviction qu'ils sont une espèce de peuple élu et qu'il faut qu'ils aillent implanter des républiques, plus du tout de royauté, mais des républiques où ils pourront pratiquer leur religion et garder leurs esclaves et vivre donc suivant ce qu'ils souhaitent. Et alors voilà, ça c'est la partie préliminaire à l'arrivée de Jeanne Casalis. Donc je vais en venir maintenant à Jeanne Casalis et je reprendrai peut-être un tout petit peu à la fin le devenir de l'Afrique du Sud après ça. Alors, notre missionnaire, donc mon missionnaire préféré, donc je dis préféré parce que j'ai étudié pas mal de missionnaires, Eugène Casalis, qui est une personnalité extraordinaire, est né en 1813 à Orthès, dans ce qui était à l'époque les Basses-Pyrénées, maintenant les Pyrénées-Atlantiques. C'est ce qui fait que je me suis intéressée à lui, parce que je suis née pas très loin de là, mais je ne le connaissais pas. Et il est né donc dans une famille huguenote, une famille protestante très fervente, et qui est d'autant plus heureuse que depuis 10 ans à sa naissance, les protestants français peuvent de nouveau pratiquer librement. Parce qu'il y a eu donc l'édit de Nantes qui donnait liberté de culte à tout le monde, aux protestants et aux catholiques, enfin aux protestants essentiellement. Révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, donc de nouveau les protestants sont persécutés. Et sous le consulat, à la fin du consulat, en 1802, Bonaparte passe donc le concordat avec l'église catholique et avec l'église protestante et rend la liberté de culte donc aux uns et aux autres, puisqu'il y avait eu quand même un problème aussi avec les catholiques à un moment donné. Enfin, les protestants, donc depuis 10 ans, peuvent pratiquer la religion, et Eugène donc va naître au sein de cette famille protestante fervente. Et une famille, d'autre part, très aisée. Donc, il a eu vraiment une enfance heureuse dans de bonnes conditions. Ses parents sont des commerçants prospères qui commercent avec l'Espagne, avec le Sud-Ouest. Ils sont pas loin de Bayonne, qui était un port important aussi pour les Amériques. Et aussi une famille, disons, un milieu affectif très, très favorable. Il a des parents aimants, il a des frères et des sœurs, il a des grands-parents qui sont là aussi. Donc, il a vraiment une jeunesse tout à fait heureuse. À l'âge de 10 ans, va passer par Orthès un pasteur protestant extrêmement connu dans le monde protestant de l'époque, qui était non seulement un théologien de première classe, mais aussi un grand pédagogue. Il est envoyé par les autorités à Paris pour aller apporter, donc pour essayer de reformer un peu ces communautés protestantes qui avaient beaucoup souffert de ces périodes donc difficiles, à Bayonne. Donc il s'arrête chez les parents d'Eugène à Orthès, et Eugène est tout à fait attiré par cet homme qui est très charismatique, enfin bref. Et ce pasteur propose aux parents d'Eugène de l'amener avec lui à Bayonne, où il pourra bénéficier donc à la fois d'un enseignement théologique, mais aussi d'un enseignement plus général et de l'expérience donc de ce pasteur. Donc entre 10 ans et 18 ans, donc Eugène va partir à Bayonne, où il retrouvera, d'ailleurs il vivra chez une tante, une sœur de son père. Donc encore une fois, il est dans une atmosphère affectivement favorable et intellectuellement très favorable. Il fera donc beaucoup d'entrées. Il faut quand même voir que c'est quelqu'un, donc il est en France évidemment, mais qu'à l'époque au Béarn, et encore maintenant d'ailleurs, on parle le béarnais, donc il a tout de suite été bilingue, si je puis dire, français béarnais. Il va se mettre au latin et au grec avec le pasteur, qui s'appelle le pasteur Pitt, en plus de ses études de théologie littéraire, historique, etc. Et à l'âge de 18 ans, donc, se pose le problème, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir ? Et il se trouve que justement, à ce moment-là, on est en 1830, donc, le pasteur est rappelé à Paris, et il propose à Eugène d'aller avec lui et de s'arrêter dans un endroit qui est assez récent, qui a été créé 8 ans auparavant à Paris, qui s'appelle la SMEP, c'est-à-dire la Société des Missions Évangéliques de Paris. Donc cette Société des Missions Évangéliques de Paris a été créée en 1822. Donc vous voyez, évidemment, les protestants, on leur a rendu la liberté de culte assez peu de temps avant, donc elle est assez récente. Donc c'est les premiers, ils vont former les premiers missionnaires protestants en France. Et d'entrée, elle a été en liaison avec la société de Londres qui s'appelait la London Missionary Society, qui elle avait été créée en 1795. Il va y avoir des liens qui vont s'établir, comme je vous le redirai par la suite, entre les deux missions. Donc Eugène et son pasteur remontent à Paris, ils s'arrêtent à la maison des missions, et là, immédiatement, Eugène se sent tout à fait en confiance et il se dit effectivement, c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux être missionnaire, je veux apporter ma foi à d'autres peuples, etc. Et il va passer donc 3 ans dans cette maison des missions, extrêmement fructueux pour lui. Alors déjà, il se lie d'entrée d'amitié avec un autre jeune homme qui s'appelle Thomas Arbousset, donc c'est deux noms qui sont un peu associés, qui lui était natif de Pignan dans l'Hérault, où il y avait aussi des communautés protestantes importantes. Et ils vont donc pendant 2 ans recevoir une éducation donc très théologique à la Société de Mission, mais on les encourage, enfin on leur demande même de suivre des cours en Sorbonne. Donc ils vont suivre beaucoup de cours en Sorbonne, plutôt quand même côté littérature que côté science. Ils vont suivre des cours de français, des cours d'histoire, et ils vont quand même, pour le côté un peu scientifique, suivre avec beaucoup de passion les cours de Cuvier. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Cuvier, qui était un grand paléontologue à l'époque, qui pouvait reconstituer un dinosaure à partir de quelques os, disait-on, et qui est celui, alors pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, qui a disséqué le cadavre de la Vénus Hottentote qui a été rapatriée. Alors, je peux vous en reparler après si vous avez des questions. Donc, ils ont suivi ces cours. Et il faut dire, alors, 1830, quand ils arrivent à la mission à Paris, c'est 1830, ça ne vous dit peut-être rien non plus, mais c'est le moment où la France prend Alger. Donc, début de la colonisation française en Algérie, 1830. Et donc, la mission de Paris dit à Eugène et à Thomas Arbousset que ce serait pas mal, là, il y a un champ de mission qui s'ouvre, tout neuf, que vous puissiez partir donc en mission en Algérie, ce qui ne leur déplaît pas parce que c'est pas trop loin quand même de la France pour revenir. Donc ils se mettent tout de suite à l'apprentissage de l'arabe, ils rajoutent, à l'hébreu, ils avaient fait un petit peu d'hébreu, ils faisaient de l'hébreu à la maison de mission. Ils se mettent à l'étude de l'arabe, à l'étude du Coran, avec beaucoup d'énergie, quand, en 32, donc, alors qu'ils sont très prêts à partir, il y a des problèmes dans le sens où le gouvernement français a passé des accords avec les chefs religieux algériens, comme quoi ils ne voulaient pas trop d'ingérence dans leurs affaires religieuses. Donc on leur dit, vous ne partez plus en Algérie, mais vous partez en Afrique australe. Alors c'est, évidemment, ce n'est pas du tout pareil. Alors pourquoi l'Afrique australe ? Eh bien parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque la mission de Paris a ouvert en 1822, ils étaient en liaison tout de suite avec la mission de Londres. Ils avaient des idéaux assez communs, d'abord d'un protestantisme assez ouvert, non dénominationnel, et puis un combat pour, comment dirais-je, d'abord contre l'esclavage, pour s'intéresser au peuple et vivre avec eux et ne pas avoir cette espèce de regard occidental assez méprisant envers les peuples qui n'étaient pas occidentalisés ou européanisés. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 1829 est arrivé donc à la mission de Paris en visite le fameux pasteur Philippe, dont je vous ai parlé, le docteur Philippe, qui avait beaucoup fait pour l'abolition de l'esclavage en Afrique du Sud. Et il va voir donc les autorités à Paris et il leur dit, mais vous savez, en Afrique du Sud, on a une petite communauté de huguenots qui seraient très heureux d'avoir des missionnaires protestants français. Ça leur fait revenir un petit peu à leurs racines. Et c'est comme ça qu'en 29, donc l'année avant que Eugène n'arrive, trois missionnaires français sont partis en Afrique du Sud. Alors l'un d'eux est resté, donc la petite communauté française était juste, elle est à une cinquantaine de kilomètres au nord du Cap, par ici. Il y a d'ailleurs un endroit où qu'on peut toujours visiter à cet endroit-là, qui s'appelle Franscheshoek, qui veut dire le coin français, donc c'est en hollandais. Et il y a toujours une communauté française, et dans le cimetière, vous avez beaucoup de noms français, dont la tombe du premier missionnaire qui est parti là-bas, donc un français, qui est resté donc d'ailleurs 67 ans auprès de cette communauté protestante, donc de huguenotes de Franscheshoek. Et puis les deux autres sont partis, alors sur les conseils toujours du docteur Philippe, ils sont partis alors au nord. Je ne sais pas si j'ai une carte un petit peu meilleure, enfin ça ne va pas être très très clair, mais voilà. Donc, alors voyez le cap, vous voyez bien la petite péninsule là. Donc au début la colonie est juste autour, puis elle va s'agrandir de plus en plus, et puis elle va monter à peu près jusqu'à cette première zone. Et là il y a un missionnaire anglais très connu qui s'appelait Moffat, qui a installé, qui a créé la première mission hors territoire colonisé. Donc il a créé une mission dans ce qu'on appelait à l'époque le Bechuanaland, et qui est le Botswana actuel, qui s'appelle Kuruman. Et les deux autres missionnaires français vont partir le rejoindre, donc, parce que le Bechuanaland, c'est pareil, à l'époque, tout est à faire. Donc il y a une mission énorme pour les missionnaires. Donc il y a trois missionnaires français qui sont partis en 1829. Eugène et Thomas Arbousset ne peuvent plus partir en Algérie. On les envoie donc en Afrique du Sud. Et leur mission, c'est d'aller rejoindre ces deux pionniers qui sont partis au Bechuanaland. Donc le Bechuanaland, en gros, vous voyez, c'est cette partie-là. Voilà. Donc ils se mettent des rechefs, alors ils n'ont plus que quelques mois avant de partir, à l'étude de l'Afrikaans. Alors l'Afrikaans, qui s'écrit comme en Afrique, mais à la fin c'est C2ANS, c'est le nom de la langue C'est le nom du néerlandais, finalement, quand il a évolué vers une langue un petit peu différente. Donc, c'est du néerlandais un peu adapté à l'Afrique. Donc, ils se mettent à l'étude de l'afrikaans. Et ils vont donc prendre le bateau, mais ils ne partent pas seuls. Alors ça, c'est une petite histoire un peu anecdotique, mais qui est assez sympathique. D'abord, on leur adjoint un troisième missionnaire, qui s'appelle Constant Gosselin, qui n'est pas un vrai missionnaire, qui est ce qu'on appelait à l'époque des artisans missionnaires. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas fait des études de théologie, mais qui ont une foi fervente, et surtout qui sont très très capables de faire des travaux manuels lourds. Parce que vous pensez bien qu'en partant comme ça dans l'inconnu, il faut construire des maisons, il faut faire à manger, il faut chasser, il faut tuer des bêtes. Bon. Donc c'était un physique, si vous voulez. Et alors là, c'est la petite cerise sur le gâteau, on leur confie une jeune fille. Alors pourquoi une jeune fille? Parce que l'un des trois premiers missionnaires qui était parti dans le Bechuanaland, il était fiancé avant de partir. Mais à l'époque, on ne laissait pas les jeunes filles comme ça partir à l'inconnu sans savoir où ils allaient. Alors cette jeune fille qui s'appelait Éléonore Colani, elle avait attendu 3 ans la possibilité d'aller rejoindre son fiancé. Et là, on la confie donc à nos trois missionnaires pour qu'ils la convoient à son futur mari en Afrique du Sud. À l'époque, on ne pouvait pas aller directement de France en Afrique du Sud. Il n'y avait aucune liaison directe. Il fallait passer par l'Angleterre, évidemment, puisque c'est une colonie anglaise. Et là, ils se rendent compte que trois jeunes gens ne peuvent pas convoyer une jeune fille. C'est absolument pas correct. Et il y a une profession en Angleterre, qui a disparu depuis, mais qui était très prospère au XIXe siècle, qui était chaperon. Donc il y avait des dames anglaises d'un certain âge, veuves de préférence, dont la mission était de convoyer des jeunes filles dans toutes les parties de l'Empire britannique, quand même qui allaient en Inde, en Australie, enfin en Australie, c'était les débuts de l'Australie aussi, et c'était leur métier. Donc elles voyageaient avec la jeune fille, elles la remettaient donc à la personne qu'il fallait, elles s'assuraient que tout se passe bien. Donc ils vont donc voyager avec Éléonore jusqu'au Cap. Au Cap, ils sont réceptionnés, donc tous les quatre, alors c'est un voyage qui dure quand même près de 3 mois, donc ils arrivent au Cap, on est en février 1933, ils sont réceptionnés toujours par le même pasteur révérend Philippe, qui va s'occuper d'eux. Ils sont à Eugène Casalis, qui écrit vraiment extrêmement bien, c'est un véritable plaisir de lire. Il décrit les étals de fruits dans le marché du Cap, il dit que c'est extraordinaire, il n'a jamais vu ça nulle part. Et ils ne peuvent pas partir du Cap. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, Kuruman, la mission où sont les autres, est à peu près par ici. On ne peut pas traverser comme ça parce que c'est du désert qu'on appelle le Karoo. Et c'est donc assez impraticable. Donc, le cheminement classique à l'époque, c'était qu'on partait de Cape Town en bateau jusqu'à cette baie qui correspond à peu près à la baie où avaient accosté les premiers Portugais et qui correspond à l'heure actuelle à la ville de Port Elizabeth. Qui d'ailleurs était déjà, il y avait une amorce de ville à cette époque-là. Et c'est à partir de là que les gens cheminent vers le nord, parce qu'il y a pas mal de petits villages-bourgs qui ont été construits, enfin de tout petits villages ou des fermes, mais qui peuvent servir un petit peu de relais dans la montée vers le nord. Donc ils arrivent à Port-Élisabeth, où les attendent évidemment le fiancé d'Éléonore, qui se languissait depuis 3 ans, avec un autre missionnaire, ils sont venus les chercher. Ils vont donc célébrer le mariage et ils vont repartir vers le nord. Alors, comme l'explique Jeanne Casis dans son livre, ce n'est pas rien quand même. Ils arrivent donc frais et moulus de France comme ça, dans un pays totalement inconnu. Et là, il faut qu'ils achètent des bœufs, qu'ils achètent des chariots bâchés, qu'ils achètent un tas de matériel, des fusils. Ils n'avaient jamais manié un fusil parce qu'il y a des bêtes sauvages, il y a des lions quand même partout, un tas de bêtes sauvages diverses. Donc il faut s'équiper et partir donc pour une expédition vers le nord. Donc ce qu'ils font, ils ont d'ailleurs pris, alors ils ont un cocher qui est un vieil Hottento, et ils ont des aides qui sont des Hottento aussi, qui se trouvent un peu souvent sans travail, sans moyen de subsistance, et qui font ce qu'ils peuvent donc pour survivre. Et ils vont donc remonter vers le nord pour arriver sur les bords, alors ils vont arriver à peu près ici, vous voyez, au niveau du haut de Orange, donc il y a une rivière qui part de l'Atlantique, et qui prend sa source d'ailleurs dans le Lesotho. Et c'est d'ailleurs un des deux missionnaires, c'est Thomas Arbousset, qui découvrira les sources de la rivière Orange. Ils vont s'arrêter au bord de la rivière Orange, et là, il va se passer quelque chose qui va changer le cours de leur destin, comme ils disent, dans lequel ils voient un signe de Dieu. C'est-à-dire qu'alors qu'ils sont en campement, donc sur les bords de la rivière Orange, ils sont accostés par un métis. Donc il y avait beaucoup de métissage dans la colonie du Cap entre Bourg et Hottento, mais aussi avec les esclaves. Et ce métis leur dit qu'en fait il est envoyé par un roi, le roi des Soto. Il appelle le roi de la montagne, le roi Moshoeshoe, qui lui a confié une mission, c'était de ramener auprès de lui des hommes blancs qui pouvaient l'instruire des mœurs des blancs, parce que ce roi était particulièrement ouvert et il se rendait compte de ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il y avait des blancs quand même qui se déplaçaient de plus en plus vers le nord, et donc il voulait comprendre comment fonctionnait l'esprit de ces gens-là. Donc il demande à ce métis de ramener auprès de lui donc des hommes blancs pour l'instruire un petit peu des mœurs de leur pays. Donc les missionnaires se concertent, parce que ce n'est pas du tout prévu au programme, et Eugène Casalis, Thomas Arbousset et l'artisan missionnaire Constant Gosselin décident de partir. Ils pensent, ils voient là un appel de Dieu. Ils disent, c'est Dieu qui a mis cet homme sur notre chemin, et c'est Dieu qui veut qu'on parte pour aller évangéliser donc, ce peuple de Soto dont on n'a pas entendu parler. Donc Éléonore, son mari et l'autre missionnaire repartent vers leur station dans le Botswana, si vous voulez, et Eugène Casalis et les deux autres partent vers le Lesotho. Alors vous voyez, il y a écrit, là c'est une carte avec l'état de l'Afrique du Sud lorsqu'ils arrivent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de constitué. Le blanc, ça correspond à la colonie du Cap, donc la zone qui est colonisée. Et à partir de là, donc c'est des zones qui sont inconnues, qui sont pour la plupart pas du tout cartographiées. Sur les cartes de l'époque, il y avait même pas quelquefois le cours des rivières. Et il y avait souvent, sur les cartes anglaises, ils mettaient des éléphants pour les territoires qui n'étaient pas colonisés. Vous voyez, alors vous voyez un petit peu le nom de certains groupes ethniques qui sont, vous ne connaissez peut-être pas, mais enfin les Gnougi, ça correspond un petit peu maintenant aux Zoulous. Et, enfin, c'est une partie des Zoulous, puis la plus grosse partie est ici. Les Soto, donc c'est le peuple où vont aller, voilà. Et puis les, bon, on va laisser le reste, c'est pas le lieu d'en parler. Donc ils décident d'aller répondre à l'appel de ce roi, et ils vont donc se présenter dans le pays des Soto, qui est ici. Alors je ne sais pas si j'ai une carte, non. Je vous montrerai la carte à la fin. Ils arrivent donc, le roi, alors il y a eu beaucoup de guerres Zoulous et beaucoup de perturbations dues aux Zoulous précédemment, mais sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. Le roi donc des Soto s'était réfugié dans une partie haute du pays, dans sa capitale qui s'appelle Tababoussiou, qui avait l'intérêt d'être enfermé dans des falaises. Il y avait juste un accès et le reste c'était des falaises, donc c'était très facile à défendre, et c'est comme ça qu'il avait pu résister aux Zoulous, qui étaient assez redoutables à l'époque. Donc il va accueillir les missionnaires extrêmement bien. Alors je voulais montrer, j'ai fait juste deux photos. C'est la montée pour aller vers Tababoussiou. Donc on arrive dans le bas et on monte sur le plateau. Voilà, et là il y a un immense plateau. Alors à l'heure actuelle il n'y a plus rien, il n'y a plus que quelques ruines, mais c'était un très 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 grand plateau où il y avait la capitale donc des Basuto. Et ça c'est la tombe du roi, c'est la seule chose qu'ils ont préservée à l'heure actuelle en dehors de quelques ruines, la tombe du roi Moshoeshoe, donc qui est maintenant un personnage non seulement célébré bien sûr au Lesotho, dont le roi actuel est un descendant direct de Moshoeshoe, mais aussi dans toute l'Afrique du Sud, on reconnaît que ça a été un personnage quand même tout à fait remarquable. Voilà, donc ça c'est Tababoussiou. Donc ils arrivent, le roi les reçoit fort bien, donc il fait d'ailleurs, c'est assez drôle ce que raconte Eugène, le roi tout de suite, pour montrer sa puissance, fait défiler devant les missionnaires toutes ses femmes, il en a 60. Il fait défiler devant les missionnaires, alors vous imaginez qu'évidemment les missionnaires ne trouvent pas ça bien du tout. Et d'ailleurs Eugène commente, Eugène Casalis, en disant, il ne se doutait pas le pauvre homme de toutes les misères que nous allions lui faire avec ces histoires de polygamie, qui a été un des grands combats des missionnaires. Ils se sont battus les uns, enfin quelle que soit d'ailleurs leur dénomination, ils se battaient contre la polygamie. Donc le roi les reçoit fort bien, et les missionnaires expliquent leur but, évidemment qui n'est pas uniquement d'apporter des connaissances pratique, si je puis dire, au roi, mais aussi de lui parler d'un Dieu qui est dans le ciel, etc. Bon, le roi les écoute avec politesse. Et ils disent donc qu'ils aimeraient implanter une mission. Ils expliquent qu'ils aimeraient avoir un lieu à eux où ils pourraient donc pratiquer, enfin montrer ce qu'est leur religion, et aussi peut-être s'occuper donc un peu de l'éducation du peuple. Donc le roi est tout à fait d'accord, et il va parcourir avec eux un certain périmètre autour de cette montagne de Tababoussiou, jusqu'à ce qu'il tombe sur un endroit tout à fait idyllique. Ah, ça ne veut plus tourner. Ah, ça c'est le roi d'ailleurs, voilà. Ça c'est Moshoeshoe. Casalis, il a un sens esthétique très développé. Il a fait un portrait, il décrit le roi en disant que c'était un homme superbe. Alors il y a des gens qui avaient des restrictions envers les Africains, mais alors lui pas du tout. Il dit d'abord cette peau noire, luisante, il avait des épaules puissantes, enfin il était superbe. Et je crois que j'ai... Voilà. Alors voilà le lieu qu'ils ont trouvé, c'est tel qu'il est toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, il y a deux vues. Il décide de s'implanter là parce qu'il y a de l'eau en quantité et il y a beaucoup d'arbres qui vont leur servir donc à construire, évidemment. Donc c'est ce lieu, ils vont l'appeler Morija, donc c'est le terme toujours actuel. Si vous allez au Lesotho, vous pouvez aller à Morija, qui était un nom biblique. Et ils vont s'atteler à la tâche, donc à Morija. Ils vont s'atteler à la tâche, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, donc il faut construire, il faut tout reprendre à zéro. Alors ils avaient quand même laissé des chariots à la dernière petite ville qui s'appelait Philippolis, où ils avaient rencontré l'hermétiste qui les avait amenés. Donc ils avaient juste amené un chariot avec un peu de matériel de base, et ils vont continuer, donc ils vont commencer à couper des arbres, chasser, parce qu'il y avait des lions autour et il y avait du gibier, donc pour manger il fallait chasser. Donc vous imaginez l'énorme changement entre le Béarn, Paris, et puis d'un seul coup, 3 mois après, on est au Lesotho. C'était quand même pas rien à cette époque-là. Et ils vont donc commencer à bâtir donc une église, d'abord un temple d'abord, et puis un petit logement pour eux assez sommaire au début. Ils vont ensuite repartir, Eugène va repartir dans la ville la plus proche pour ramener pas mal de plants d'arbres fruitiers. Il va amener des abricotiers, des pêchers, une série d'arbres fruitiers qui vont d'ailleurs très très bien prospérer parce qu'à l'heure actuelle, la pêche est le fruit du Lesotho. Dans toutes les familles où l'on va au Lesotho, dans les cuisines, il y a des grandes jarres pleines de pêche. Et c'est encore un des legs des missionnaires. Donc ils vont faire ça, ils vont aussi ramener, donc ils avaient monté jusqu'à Philippolis, ils vont ramener beaucoup d'animaux, donc des moutons, des chevaux, il n'y avait pas de chevaux en Afrique australe, c'est les Européens qui ont ramené les chevaux, ils vont ramener des chevaux. Ils vont ramener aussi pas mal de volailles, donc il n'y en avait pas non plus, je crois qu'il y avait encore il y avait des dindons, mais c'est à peu près tout, donc ils vont ramener pas mal de volailles. Et ils vont ramener quelque chose qui va être extrêmement apprécié par les Sotoans, qui sont les chats. Il n'y avait pas de chats et il y avait énormément de rongeurs au Lesotho, autant à Tababoussou qu'à Morija. Et leurs chats, donc ils ont amené plusieurs couples, se sont développés rapidement, ont fait beaucoup de petits et ont mangé les rongeurs. Et alors, Eugène Casalis dit qu'on rendait aux chats un culte comme à un animal sacré pratiquement, tellement ça les avait débarrassés de ces problèmes. Donc, ils vont passer. Alors, l'autre grande préoccupation, évidemment, c'est, ça doit vous parler peut-être davantage, c'est la langue. Donc, ils se trouvent dans un pays de langue. C'est une langue bantoue qui s'appelle le Soto. Alors, je vais faire peut-être une parenthèse à ce niveau-là. Dans les langues bantoues, nous, en français, c'est souvent le suffixe qui va marquer quelque chose. Donc, on a une racine, puis le suffixe marque. Dans les langues soto, c'est l'inverse, c'est le préfixe. Donc quand vous prenez le terme soto, si vous dites les soto, c'est le pays. Donc le les marque le pays des soto. Si vous dites mo soto, c'est un soto, une personne, c'est le singulier. Si vous dites ba soto, c'est le pluriel. C'est pour ça d'ailleurs que théoriquement, lorsqu'on écrit les ba soto, on ne devrait pas mettre d'S à la fin qui serait redondant puisque c'est le bas qui marque la marque du pluriel. Si on dit c'est soto, c'est la langue. Et on parle du c'est soto, beaucoup de langues africaines d'ailleurs, de langues bantoues du sud ont ce préfixe. Donc ils vont s'intéresser tout de suite à la langue. Ils avaient un interprète au début, mais qui interprétait un peu à sa manière. Donc ils se sont rendus compte qu'il fallait vraiment. Oui, une fois il avait traduit, il voulait dire que que Jésus était un faiseur de miracles. Alors il passait par le hollandais pour arriver au. Et au lieu de. Alors je ne sais plus bien en hollandais, mais c'était au lieu de Zelig my master, ou quelque chose comme ça. Ils avaient dit un faiseur de sel. Parce que le terme entre miracle et sel, apparemment en hollandais, est très proche. Donc il avait traduit que Jésus était un grand faiseur de sel, comme les sels sur lesquels on... cheval. Bon bref, donc ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment des gros problèmes. Donc ils se sont mis très intensivement à l'apprentissage du soto. Et alors je m'interrogeais un peu comment on fait. Alors ils disaient que finalement, dès le départ, le soir, après le repas, dans leur petite ville de Morija, enfin, il y avait des gens qui étaient venus autour d'eux, le roi avait envoyé des gens pour faire un petit groupe et pour les aider à construire. Ils faisaient une réunion après le repas et ils disaient, alors ils avaient appris à dire king, qui s'écrit comme king en anglais, qui veut dire qu'est-ce que c'est. Donc ils montraient les objets et ils avaient établi très vite un espèce de lexique avec les objets courants. en s'auto-français, s'auto-anglais. Et puis après, lorsqu'on arrivait à des choses plus compliquées, donc ils avaient beaucoup de conversations avec les anciens. Ils se déplaçaient à Tababoussiou pour rencontrer des anciens, et avec le roi qui leur faisait comprendre des choses. Ce qui fait que Jeanne Casalis a fait un travail absolument remarquable. En 3-4 ans, il a fait un ouvrage qui s'appelle « Études sur la langue Sichuana », où il a fait une grammaire, je vous montrerai à la fin, une grammaire, enfin bon, je reviendrai sur ça après. Donc ils se sont mis à l'apprentissage du soto et ils ont commencé. Alors vous en doutez que le but malgré tout était religieux, c'était de se faire comprendre, mais c'était de faire passer le message du Christ auprès de son auditoire. Donc ils ont écrit très vite des petites histoires bibliques en soto, et comme les Bantous en général aiment beaucoup chanter, ils ont commencé à composer des cantiques, enfin des petites chansons religieuses. Et il dit que la toute première qu'ils ont écrite, comme ils n'avaient pas de connaissances en musique, enfin ils n'étaient pas capables de créer des airs, et la toute première était sur l'air d'Au clair de la lune. Et donc les sotos appréciaient chanter. Ils avaient simplement une mauvaise habitude, les missionnaires ont essayé de les guérir de ça, c'est qu'ils aimaient bien chanter en tapant des pieds. Et ils trouvaient que c'était vraiment inconvenant, donc il ne fallait pas taper des pieds. Ça a été un peu difficile à leur désapprendre. Donc ils se mettent à l'apprentissage du soto. Et au bout de 3 ans, donc on peut faire un premier point, on est en 36. Ils ont donc construit une mission, ils ont construit des logements, ils ont à peu près 400 personnes autour d'eux qui reçoivent leur enseignement régulièrement, bon, ils n'en sont pas encore au point de faire des convertis, ils ont des rapports réguliers avec le roi, ils ont développé donc la culture du froment qui n'existait pas, ils ont introduit la charrue qui n'existait pas, ils ont planté des arbres fruitiers qui commencent à donner des fruits, ils ont des troupeaux qui sont en bon état, ils ont dû... Pendant toute la première année, ils disent que c'est terrible, ils ont dû construire des enclos et tenir des tours de garde la nuit parce que les lions et les hyènes rôdaient en permanence autour des troupeaux et il fallait donc tirer dessus, quoi. Et les hyènes en particulier, ils disent que c'est épouvantable. Les hyènes sont des animaux extrêmement malins qui avaient des stratégies. Il y en avait 2 ou 3 dans un coin qui faisaient un petit peu de bruit. Donc on allait vers là et pendant ce temps, il y en avait 2 ou 3 autres qui s'infiltraient et qui allaient manger les moutons. Voilà. Donc ils ont eu vraiment à se battre contre des conditions matérielles difficiles. Donc au bout de 3 ans, ils sont implantés, ils sont relativement acceptés, je n'irai pas trop loin, mais enfin, dans Morija ça va. Bon, par ailleurs, évidemment, leur influence ne grandit pas très vite. Le roi, par contre, vient régulièrement leur rendre visite, ou ils vont rendre visite au roi, et ils ont beaucoup d'échanges, et il va se développer très tôt des liens très très privilégiés entre Casalis et Moshoeshoe. Il y a une espèce de coup de foudre de l'amitié qui se passe, et ils se rendent compte que malgré leur arrière-plan complètement différent, malgré leur culture totalement différente, malgré leurs croyances totalement différentes, ils arrivent à communiquer, ils ont malgré tout des valeurs communes, donc c'est tout à fait intéressant de voir les échanges qu'ils ont tous les deux. Donc au bout de 3 ans, je reviens à mes 3 ans, parce que c'est important, ils se rendent compte qu'une question qu'on leur pose beaucoup, c'est pourquoi vous, 3 jeunes gens en forme, hein, vous n'avez pas de femme ? Et ils se rendent compte que ça crée beaucoup de suspicions parmi les sotos, des jeunes gens de 22-23 ans sans femme, ça paraît bizarre. Donc ils ont une petite concertation et Eugène dit ben, il faut qu'on trouve des femmes, quoi. Et alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais quand on est au Lesotho, n'est-ce pas, à Morija, c'est pas évident de trouver des femmes, surtout que chez les protestants, il n'y a pas d'union mixte, hein, c'est absolument inenvisageable. Donc il n'est pas question de prendre une femme locale. Donc Eugène, toujours avec sa foi extraordinaire, il dit, écoutez, je vais aller au Cap, je vais aller en pionnier au Cap, et je suis sûre que Dieu va mettre sur mon chemin la femme qui m'est destinée. Donc voilà, il a une fois qu'il déplace les montagnes, donc il part au Cap, c'est quand même pas rien non plus, c'est quand même encore un mois de trajet. Il arrive au Cap où il est toujours reçu par le même pasteur Philippe qui faisait un peu la liaison entre tout le monde. Et dès le lendemain, alors il faut voir aussi que c'est pendant 3 ans, ils ont vécu avec les mêmes habits. Alors il dit, on se rend pas compte, mais la perte d'un bouton, c'était un véritable malheur, parce qu'on n'a plus de bouton, on n'a pas de remplacement. Donc les indigènes leur apprennent à mettre des épines d'un certain arbuste qui ferme un peu. Enfin, il faut refaire toute la garde-robe. Donc première chose qu'il fait en arrivant au Cap, il va dans un marchand local, donc il vendait des habits. Et là, il y a une petite jeune femme qui le sert, mais il ne fait pas trop attention. Mais enfin, il est obligé d'y revenir le lendemain parce qu'il y a d'autres choses à acheter. Et le lendemain, la patronne, si je puis dire, du magasin, qui connaît le pasteur Philippe et qui sait qu'il y a un missionnaire de passage, l'invite à manger chez elle. Et il se trouve qu'il est à côté de la petite jeune femme qui n'est autre que la fille de cette dame. Et donc là, il fait connaissance avec cette petite jeune fille qui paraissait un peu effacée au départ, qui s'appelle Sarah. Et il trouve que, mon Dieu, Sarah, elle a beaucoup de qualités apparemment. Enfin, il la fréquente quelques jours et il se dit, je pense que c'est la femme que Dieu a mise sur mon chemin. Donc il décide de rester 3 mois au Cap en rendant visite à Sarah régulièrement. Et au bout de 3 mois, il est convaincu que c'est la femme de sa vie. Donc il se marie et il la ramène chez les Soto. Et ça a été un mariage parfaitement heureux et réussi. Donc il la ramène chez les Soto et à ce moment-là, c'est le tour de Thomas Arbousset de partir au Cap pour chercher aussi une femme. Ce qu'il va faire et qu'il va trouver parce qu'il va épouser une amie de Sarah. Donc lorsque Thomas Arbousset... Ben oui, il faut dire qu'il n'y a pas énormément de choix quand même. Hein. Mais en fait, apparemment, ça a été des unions réussies dans un cas comme dans l'autre. Tant mieux. Et lorsqu'ils reviennent, donc lorsque Thomas à son tour revient, à ce moment-là, le roi Moshoué demande à Casalis de venir, donc de laisser Thomas à Morija, donc dans la mission d'origine, et de venir s'installer près de lui, à Tababosiu, pour donc... faire profiter donc de son enseignement son peuple. Donc il a déjà pas mal de gens s'intéressant à la religion en Morija, mais il faut améliorer ce qui se passe à Tababosiu. Donc c'est ce que va faire Jean Casalis, qui va s'installer avec sa femme Sarah et leurs enfants qui vont naître assez rapidement. Il aura 8 enfants, dont 3 vont mourir. Et il va s'installer auprès du roi, donc, et il va continuer donc, son enseignement auprès du roi, et il va aussi donc, continuer son travail d'alphabétisation qu'il avait commencé à Morija et qui va continuer à grande échelle à Tababosiu. Et alors, à ce moment-là, donc, si vous voulez, je reviens au point où j'étais tout à l'heure, c'est-à-dire que, vous vous rappelez, 1833, les Anglais abolissent l'esclavage, les bourgs qui ont des esclaves, enfin un certain nombre de bourgs qui ont des esclaves, décident de quitter la colonie du Cap pour trouver des terres où s'implanter vers le nord. Donc, en 1936, les premiers bourgs, les premiers chariots bourgs arrivent du côté du Lesotho. Alors, il y a une tradition chez les Bantous que les Européens de l'époque ne connaissaient pas du tout et que Jean Casalis a essayé de faire connaître, mais en vain. C'est-à-dire que chez les Bantous, et chez les peuples africains d'Afrique australe, mais aussi donc plus au nord en Afrique, j'ai retrouvé la même chose, la terre, c'est pas la terre qui est un bien, la terre c'est une espèce de bien commun, mais on n'a pas cette notion de propriété, j'ai ma parcelle, toi ta parcelle, on ne se mélange pas. Ce qui est important, alors chez les Bantous, ça va être le bétail, ou le nombre de femmes pour un roi, ou les gens qu'on va, les esclaves qu'on va prendre dans des guerres, mais ce n'est pas vraiment les problèmes de terre. Donc un soto comme Moshoeshoe, qui avait des terres assez importantes, il était normal que des ethnies, des groupes, des chefferies qui se déplaçaient, demandent de l'hospitalité, demandent à s'implanter sur les terres de Moshoeshoe, et c'était normal de leur dire, vous pouvez vous implanter, donc on faisait un petit cadeau de bétail en général, mais on pouvait donc vivre comme on voulait sur la portion de terre qui nous avait été donnée, mais il était clair que la terre appartenait au chef qui vous avait permis de vous installer dessus. Donc c'est une terre qui ne vous appartenait pas parce que vous étiez installé, que vous aviez donné un bœuf ou deux, mais vous étiez susceptible de la rendre si on vous la donnait. Donc la terre n'était pas à vous, mais vous aviez... Bon, vous pouviez faire ce que vous voulez sur cette terre tant que vous respectiez donc le niveau fédéral, si je puis dire. Et donc, lorsque les premiers bourgs vont s'installer sur les terres du roi Moshoeshoe, il va les laisser s'installer. Les bourgs lui offrent un peu de bétail et il les laisse s'installer, mais il est clair pour lui que s'il leur demande de partir un jour, ils vont partir. Mais évidemment, les bourgs ne connaissaient pas du tout, ne comprenaient pas, n'étaient pas du tout rentrés dans le système de pensée bantou. Et pour eux, ils avaient donné un peu de bétail, donc c'était à eux. Donc il va y avoir une implantation de plus en plus importante, donc de bourgs, sur le territoire de Moshoeshoe. Et alors, à partir de là, donc à partir des années 1838, Eugène Casalis, qui maintenant est installé auprès du roi Moshoeshoe, va jouer un rôle extrêmement important et pour lequel les Soto actuels lui est toujours reconnaissant, c'est-à-dire qu'il va jouer le rôle un peu d'intermédiaire, un peu de ministre des Affaires étrangères, si je puis dire, pour ce roi Soto. Donc il va en permanence écrire aux autorités du Cap pour demander qu'on prenne des mesures dont ces bourgs qui sont implantés sur les terres et qui ne veulent pas rendre les terres quand on leur demande. Donc pendant 10 ans, à peu près entre 38 et 48, il va jouer ce rôle de négociateur permanent avec 10, 12, 20 courriers par an auprès des autorités du Cap, donc puisqu'il parlait anglais, pour défendre le roi et le territoire du roi. Et on va lui en être extrêmement reconnaissant. Donc ça nous amène à 1848. Et 1848 va être une année un petit peu critique pour la mission, non pas parce qu'il se passe en Afrique du Sud, mais surtout parce qu'à Paris, alors vous savez peut-être aussi en France, 48, c'est une année un peu révolutionnaire en Europe, d'ailleurs pas seulement en France. Et en France, donc Louis-Philippe est obligé de laisser le trône. Et c'est une période donc économiquement difficile. Et les missions de Paris sont en difficulté financière, ne peuvent plus missionner, ne peuvent plus payer leurs missionnaires en Afrique australe. Donc Eugène Casalis est obligé de partir avec sa femme et ses enfants au Cap pour essayer de faire une tournée des missions sud-africaines pour récolter de l'argent, pour pouvoir payer ses missionnaires et ses missions et tout le travail qu'il faisait. Et il n'a pas suffisamment d'argent, donc finalement les missions de Paris lui demandent de rentrer en Europe pour faire une tournée, encore une fois, pour avoir de l'argent. Ça se faisait beaucoup à l'époque, les missionnaires rentraient au pays périodiquement pour parler aux gens et pour susciter de l'argent pour les missions. Donc il va rentrer en Europe en fin 48, début 49. Il va ramener avec lui son fils aîné, qui à l'époque a 12-13 ans, et qu'il pense laisser en France parce qu'il y a le problème des études pour les enfants missionnaires. Donc il va le laisser en France et il va faire une tournée qui va durer à peu près un peu moins de 1 an et demi, où il va aller en France, il va arriver en Angleterre, en France, en Belgique, en Hollande et en Suisse pour ramener suffisamment d'argent. Et c'est ce qui va se passer. Il va ramener une somme assez importante qui lui permet donc de rentrer au Lesotho. Donc il rentre au Lesotho en 51, il retrouve sa femme et ses 4 enfants, donc, puisqu'il a laissé l'aîné en France. Et il va retourner donc à Tababoussiou auprès du roi. Et il ramène sa femme qui étant déjà en assez mauvaise santé. Elle est enceinte, enfin elle va être enceinte donc, et elle va mettre au monde un enfant un an plus tard qui ne va pas vivre et elle-même va mourir 6 mois après. Donc on est en 52, Sarah Casalis meurt, elle est enterrée, on peut voir toujours sa tombe d'ailleurs, elle est enterrée à Morija. Et Eugène Casalis s'est complètement effondré, donc il a perdu sa femme, il se retrouve avec 4 enfants petits, et sa fille aînée a 12 ans, donc, et puis il a 3 autres enfants derrière. Et alors il va quand même se consacrer, mais avec un peu l'esprit ailleurs peut-être, à continuer à consolider encore cette œuvre politique auprès du roi, donc essayer toujours de défendre ce territoire qui est toujours de plus en plus convoité par les bourgs. Et en 55, il se passe la chose suivante. À Paris, donc, la maison des missions avait fermé parce qu'il n'y avait plus d'argent. Ils ont de nouveau, Napoléon III est arrivé sur le trône, donc ils ont de nouveau de l'argent pour rouvrir la maison des missions. Et ils demandent à Eugène Casalis de rentrer en France pour prendre la direction de la maison des missions en pensant qu'il a une expérience qui va faire qu'il va pouvoir susciter des vocations un petit peu. Donc à ce moment-là, Eugène Casalis rentre en France. Je vous passe rapidement sur la fin de sa vie pour reparler un peu de son bilan. Donc il va rentrer en France. Il va donc redonner une deuxième vie à cette maison des missions. Il va se remarier au bout de 3 ans avec une jeune femme d'origine suisse avec laquelle il aura de nouveau 5 enfants, donc il a eu une très grande descendance. Et il va recevoir la Légion d'honneur en 75 pour avoir encouragé le rayonnement de la France en Afrique australe. Et il va faire un très joli discours où il dit qu'il tient à associer tous ses Basuto à cet honneur parce que c'est aussi, il s'est passé entre lui et eux, donc des échanges assez extraordinaires. Et il meurt donc à Paris à l'âge de 79 ans, donc entouré de sa famille, des siens. Enfin, c'est une existence globalement quand même satisfaisante. Alors, si on fait un petit bilan de ce qu'il a laissé au Lesotho. Alors, évidemment, le bilan politique est peut-être celui que les gens ont le plus en mémoire à l'heure actuelle. Donc, c'est-à-dire qu'il a préservé malgré tout. Alors, après son départ, le Lesotho a malgré tout été amputé de certains territoires. Alors, attendez, je vais peut-être passer alors sur ça. Je vais revenir après. Voilà. Oups. Voilà, alors vous voyez la colonie du Cap, j'aurais dû vous montrer ça tout à l'heure, donc le circuit Port-Élisabeth, ils montent donc jusqu'à l'Orange et ils partent vers le Bassout-Hollande. Alors au départ, le territoire donc, était beaucoup plus grand, il allait jusqu'au confluent de l'Orange et du Calédon. Et quand il, alors pas quand il part, mais vite après, les Anglais finalement ont laissé les bourgs faire, il y a des problèmes avec les bourgs, et ils vont annexer cette partie-là. Cette partie-là, donc, il va perdre ce qui est ce qui était la partie la plus fertile dans le delta des deux, au confluent des deux vallées. Et donc, il va quand même préserver donc, ce territoire du Lesotho, qui va devenir un protectorat anglais en 1868. Donc, le Lesotho passe sous protectorat anglais. Donc, il faut quand même voir, c'est une partie qui n'a jamais été colonisée. Un protectorat n'est pas du tout une colonie. C'est que ça reste. Il y a une administration anglaise au-dessus, mais il n'y a pas eu vraiment de. Il n'y a pas eu de blanc au Lesotho, sauf les missionnaires. Et le Lesotho, après ce protectorat, va devenir indépendant. Donc, le Lesotho est indépendant depuis 1966. Et le roi actuel, qui s'appelle Letsi III, donc est un descendant direct de Moshoeshoe. Voilà, donc c'est ce bilan politique, peut-être qu'à l'heure actuelle, on retient surtout des Lesotho, mais il y a deux bilans qui, pour moi, me paraissent absolument extraordinaires, qui sont d'abord la langue. Alors, ça a été une grosse découverte pour moi, c'est que nous sommes nés dans une civilisation d'écriture. On est nés, même avant de savoir écrire, on savait que ça existait. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce que l'écriture a pu être pour les Sotho. J'ai deux anecdotes à ce sujet que je trouve très révélatrices. Le père de Moshoeshoe, qui s'appelait Moshe Kané, détestait les missionnaires. Il était contre l'arrivée des missionnaires. Il trouvait, à juste titre, que les missionnaires bouleversaient toute la structure traditionnelle de ces sociétés. Et donc, il n'arrêtait pas de dire à son fils que qu'est-ce qu'il faisait avec ses missionnaires, que ces missionnaires n'amenaient que des problèmes, rien de bon. Et alors, un jour, son fils lui dit, mais regarde, ils nous ont amené l'écriture. Alors, je ne sais pas comment il a expliqué ça. Et il essaie de lui expliquer, donc. Et le père a répondu, tu ne feras jamais croire qu'on peut rendre la parole visible. Et alors, pensez à ça. L'écriture, c'est rendre la parole visible. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est l'écriture, c'est extraordinaire. Rendre la parole visible. Et la deuxième anecdote, c'est un peu le même genre. C'est au début, quand Eugène veut faire de l'alphabétisation, il distribue du papier à des gens et il essaie de leur expliquer. Donc, ils vont dire des choses, mais qu'on va pouvoir écrire ce qu'on dit. Et il y a un des Sotho qui lui dit « Vous ne ferez pas croire qu'on peut faire parler le papier ». Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve, ce passage. Et alors, il s'est pris d'une véritable, je vous disais tout à l'heure, il a écrit un manuel assez rapidement, donc sur le Sotho, avec une partie, alors il y a une partie grammaire, une partie vocabulaire, et puis il y a une partie donc sur les beautés du Sotho, sur les particularités du Sotho. Alors, je vous avais montré, il a fait un travail que je trouve, hop là, c'est juste après. Alors voilà, par exemple, il a codifié les verbes Sotho. Alors on s'imagine que les langues africaines sont des langues un peu simples, enfin on s'imagine bêtement. Et en fait, ce sont des langues extrêmement complexes avec tous les temps. Vous voyez, ce n'est que la voix active, il y a la voix passive, etc. Mais vous avez le présent, l'imparfait, le prétérit, donc c'est le terme anglais, et ça correspond à notre passé composé. Et le plus que parfait, le futur, après je lis pas bien, mais... enfin bref. Vous voyez, donc c'est extrêmement complexe, vous voyez la façon de décliner un verbe, et on se dit, mais comment, imaginez-vous sur place, au bout de 4 ans, comment on arrive à cette finesse de compréhension d'une langue avec toutes les petites particules, je trouve ça assez fabuleux. Et puis, j'ai passé à l'autre d'abord, il dit quelque chose aussi que j'ai trouvé très intéressant. Il veut dire que ce qu'il va expliquer donc dans son livre, c'est parce qu'il fait ça aussi pour des Européens, pour leur montrer à une époque où on considérait que les Africains, il y avait une hiérarchie des races et les Africains étaient tout à fait en bas, il veut leur montrer que c'est pas vrai du tout, que c'est des gens qui ont tout à fait les mêmes capacités que nous. Et il va leur dire donc que la langue des Sotho reflète cette complexité de pensée. Et il dit ceci, j'ai trouvé ça intéressant, on dit du que, le que, la conjonction que, hein, il dit que, j'ai fait, etc. Qu'au jour où il entra dans le discours, l'homme enfant devient adulte. Alors c'est vrai, les enfants au départ, ils font des principales, ils font des phrases simples. Le passage à la conjonction de coordination, ça vient à un certain stade de développement. Alors, il dit, donc peut-être en étendant un peu cette remarque judicieuse, serait-il permis de dire qu'on peut, jusqu'à un certain point, juger de l'état intellectuel d'un peuple par les conjonctions de la langue qui parle. Destinée à exprimer les différentes nuances de la pensée, leur nombre doit nécessairement être en rapport avec le développement que celle-ci a acquis. Si on applique ce principe au Bechuana, alors Bechuana c'est le terme plus général qu'il emploie, on trouvera qu'ils entreraient facilement en comparaison avec des nations qu'on est loin d'appeler sauvages. Vous voyez l'hommage qu'il leur rend. Et puis après, donc c'est quelqu'un qui, en plus, il a un très grand sens de la musique. C'était quelqu'un qui a fait de la musique petit. Quand il revient en Europe, il est ravi d'aller dans des concerts. Et il trouve que la langue des bassotos, contrairement à celle des hautentos, par exemple, ses clics, c'est vrai que c'est pas très harmonieux. Il dit que la langue des... Alors, c'est dans quel sens ? Voilà. Il trouve qu'il y a une adéquation parfaite entre fond et forme, entre son... Pardon, et forme. Alors il dit, des mots tels que lilélo, lumière, naléli, étoile, sérotoli, goutte, molélo, feu, lémélé, langue, lélabé, l'homme, sont pour lui ce qu'un tableau est pour les yeux. Ces délicieuses combinaisons de consonnes liquides ne peuvent représenter que des corps fluides, étincelants ou glissants. Par contre, alors les T ou les T sont affectés, c'est des T durs, un peu comme en anglais, sont affectés au choc des corps résistants, tata, dur. Théa, frappé, toua, pilé. Il en est des mots dont chaque syllabe semble avoir été savamment calculée pour former une onomatopée parfaite dans toutes ses parties. Tel est le fefumulaoua. Respirez, écoutez. Fé, les lèvres s'entrouvrent avec un petit bruit. Fou, l'haleine s'échappe par la bouche. Mou, par le nez. Loua, la poitrine se dilate et se vide. Ou analyser encore boroko sommeil, ça soit rouler un peu le air, boroko sommeil, la respiration c'est un instant arrêté, comme il arrive quand on dort profondément, puis elle recommence par une sorte d'explosion, bo. Il s'y joint un léger râle, ro, et le dernier effort du diaphragme pour décharger entièrement les poumons fait légèrement claquer la luette, ko. La voyelle ne change point car il est monotone comme le souffle d'un dormeur. Il y a vraiment une analyse, je trouve, extraordinaire de la langue. Voilà, donc il leur a donné donc cet outil extraordinaire de langue dont il s'est lui-même servi, et ça c'est mon dernier point, pour donner en quelque sorte un réceptacle à la mémoire de ce peuple. Donc vous aviez un peuple de tradition orale, donc il y avait l'information se transmettait de façon orale, donc malgré tout il y avait des informations qui ne passaient pas partout. Et avec cette langue, il va leur apporter en quelque sorte toute leur civilisation qu'il va condenser dans un livre qu'il a fait qui s'appelle Les Bassotos, où il a vraiment répertorié, il a fait un travail ethnographique extraordinaire et même ethnologique, je pourrais dire, à une époque où ni l'ethnologie ni l'anthropologie n'existait. Il a fait un travail de collecte de données sur le terrain où il est allé dans les villages. Lui, je dis Jeanne Casalis, mais Thomas Arbousset a fait exactement, l'a aidé dans ce sens-là. Ils sont allés dans les... Je ne me rends pas compte, je vais peut-être... Oui, je vais terminer. Ils sont allés dans les villages, ils ont vraiment fait des listes pratiquement. Ils demandaient aux gens comment ils s'appelaient, quels étaient leurs parents, comment ils étaient habillés, qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme instrument, quels étaient les rites. Voilà, ils ont fait un recueil aussi qui est très important de proverbes qu'ils utilisaient avec des commentaires, de contes et de légendes soto qui n'auraient pas existé autrement. Il y a des ethnies comme ça qui n'ont plus rien. Donc un travail de collecte de données extraordinaire. Et aussi un type alors de poésie bantou qui est assez connu chez les bantous, enfin qui est un type bien identifié chez les bantous, qu'on appelle le toko, qui est le chant de louange. Alors ça c'est quelque chose de typiquement bantou, c'est-à-dire que lorsque un personnage faisait une action d'éclat, que ça soit donc un fait de guerre ou un raid de bétail, les raids de bétail étaient des choses très très prisé chez les bantous. Comme le bétail était une valeur vraiment sûre, quelque chose d'important, il fallait avoir du bétail, les faits de guerre souvent c'était d'aller piquer du bétail au village voisin et de le ramener. On appelait ça des raids de bétail, et à la suite de ça, celui qui avait accompli un raid de bétail très audacieux avait droit donc, mais c'était oral, à un poème de louange qui était donc, lui commençait à raconter son exploit, et puis il y avait des gens qui le remettaient un petit peu en forme et qui le transmettaient oralement, mais c'est des choses qui se perdaient. Donc il a fait un recueil, ils ont fait tous les deux un recueil donc de toutes ces traditions, donc à la fois matérielles mais aussi spirituelles des bantous, et ça c'est un apport extraordinaire. Alors c'est pour ça, c'est ce que disait Alexandra au début, que En 1883, donc 150 ans après l'arrivée des premiers missionnaires, vous voyez, le royaume du Lesotho a tiré toute une série de timbres commémoratifs pour les remercier de leur action. Et donc, ça, c'est encore le casalisme est tout jeune, là, alors. Donc, alors, est-ce que je m'arrête là et puis vous posez les questions ? Ou je peux dire deux mots sur... Bon, allez-y, posez les questions, c'est peut-être plus simple, hein, parce que sinon... Non, je voulais dire deux mots sur ce qui est advenu au Lesotho... Bon, mais non, on peut s'arrêter là aussi. Non, je voulais simplement, en revenant sur cette carte-là...
On peut poser cette question, mais...
Oui, on peut aussi poser la question. Parce que donc, on en était resté en 1933, donc, dans mon panorama historique, quand Eugène est arrivé. Donc, il y a eu ce grand trait qui fait que les bourgs ont quitté la colonie du Cap. Et les bourgs ont fini par fonder donc deux républiques indépendantes qui sont... Alors, je vais essayer avec vous. Hein. Voilà, Orange Free State, l'État libre d'Orange. Et puis, il y a une partie qui est partie de l'autre côté. Alors, au départ, il n'y avait que ça, qui était la République Bourg. Puis, vous voyez cette rivière qui s'appelle le Vaal. Donc, ces deux A, c'est assez typique des graphies néerlandaises, enfin africanaires. Et il y en a une partie qui est partie de l'autre côté. Et donc, ils ont créé cet État qui s'appelle le Transvaal. Simplement, ils sont de l'autre côté du Vaal. Et ces États, donc... Il s'est trouvé qu'on a trouvé dans le Free State en 1867 des diamants à Kimberley. Il y a eu un rush sur le diamant. Et donc les Anglais ont trouvé que c'était quand même embêtant que les richesses leur échappent. Donc ils ont quand même réussi. Dans le cas des diamants, ils ont annexé la ville de Kimberley qui est par ici. Ils ont annexé le petit bout. C'était juste à la limite entre Orange Free State et la colonie du Cap. Mais en 1885, on a trouvé... De l'or, à peu près, voilà, Pretoria, alors Johannesburg se trouve ici. On a trouvé de l'or, donc, à peu près au niveau du P de Pretoria, et là, c'était en plein Transvaal, donc il n'était pas question d'annexer comme ça le Transvaal. C'est comme ça que Johannesburg est né, donc Johannesburg est né autour des premiers gisements d'or qui se trouvent donc au niveau du P de Pretoria. Et donc les Anglais ont pas mal manœuvré pendant quelques temps pour savoir comment récupérer ces richesses. Et ça s'est concrétisé, donc je simplifie évidemment énormément, par ce grand événement marquant donc de la fin du siècle, de 1899 à 1902, c'est la guerre des bourgs. Donc qui a beaucoup marqué l'Angleterre, qui a beaucoup marqué l'Afrique du Sud, qui s'est terminée par une victoire anglaise, mais à l'arraché, ça a été vraiment très dur. Et ça leur a permis donc de former après, en 1810, a été créé ce qu'on a appelé l'Union sud-africaine, Commonwealth de l'Empire britannique. Et puis l'autre date marquante, alors à partir du moment où on a trouvé des diamants et de l'or, on a dû faire appel à une main-d'œuvre indigène, et la ségrégation, on peut dire, a commencé dans les mines en Afrique du Sud. Et à partir de 1810, donc de l'Union sud-africaine, malgré tout, il y a une ségrégation de fait qui est en place, qui n'est pas officielle, mais il y a une ségrégation de fait. Et après, la ségrégation devient officielle, donc, et devient apartheid, c'est-à-dire développement séparé, à partir de 1848. Donc 1848, c'est la période noire en Afrique du Sud qui va se terminer dans les années 90, où donc il y a une ségrégation à tous les niveaux, spatial, temporaire. On passe à s'asseoir sur un banc, il y a des bancs pour les noirs, des bancs pour les noirs, pour les blancs, des bancs pour les noirs. Les noirs sont obligés d'habiter dans certaines zones, ils doivent avoir des passes pour circuler en dehors des zones qui leur ont été attribuées. Enfin, la ségrégation, c'était la même chose au sud des États-Unis, sinon que c'était pas à l'échelon de l'État. Là, c'est une politique officielle. Et donc, ils en sont sortis en 1994, donc avec Mandela qui devient le premier président de la République. Et on assiste, alors je peux dire un dernier mot, mais on pourra en parler, à un mouvement à l'heure actuelle, dont j'ai deux étudiantes qui sont à l'université du Cap, et qui disent qu'il y a des mouvements maintenant très très violents, anti-blancs. Il y a une espèce de racisme à rebours, mais vraiment violent, kill the white. Au départ, il y avait kill the boer, maintenant c'est kill the white, qui fait que, elle dit sur le campus par exemple, il y a des assemblées où les blancs n'ont pas la parole. Elle-même, qui fait un travail de recherche, l'une des deux, me dit qu'elle n'a pas accès à certaines choses. On lui dit, vous êtes blanche, c'est pas votre problème, allez voir ailleurs. Donc il y a des moments assez... c'est pas extraordinaire depuis quelque temps. Ça a commencé, ça vous l'avez peut-être suivi, parce que c'est assez récent, en 2015, il y a trois ans, Ça, il y a un mouvement de contestation qui a commencé donc sur le campus de l'Université du Cap, le grand campus qu'on appelle UTC, University of Cape Town, UCT. Il y a un matin, un étudiant noir qui est arrivé avec 2-3 autres, avec un seau d'excréments à la main, et au milieu du campus de l'Université du Cap, il y a la statue de Cecil Rhodes. Alors je pense que tu en parleras dans ton cours sur l'Afrique du Sud. Cecil Rhodes, il avait donné de l'argent pour bâtir l'Université du Cap, c'est pour ça qu'il a une statue, mais c'est le grand impérialiste anglais qui avait rêvé et qui a pratiquement réussi de faire un chemin de fer qui allait de Cape Town jusqu'au Caire et qui ne traversait que des pays sous domination anglaise. Ce qui était pratiquement fait, hein. À part la Mozambique qui était portugaise, le reste, il y avait toute la partie de l'Afrique de l'Est qui était donc sous plus ou moins contrôle, protectorat, colonie anglaise. Donc ce Cecil Rhodes, c'est lui qui a donné son nom à la Rhodésie. Il y avait Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, c'était des territoires qu'il avait créés et qui sont devenus maintenant le Zimbabwe et la Zambie. Donc Cecil Rhodes, sa statue trône au milieu de l'Université du Cap. Et un matin, donc, il y a un petit groupe d'étudiants qui est arrivé avec des seaux d'excréments qu'ils ont balancés sur la statue de Cecil Rhodes et ils ont déployé une banderole qui disait « Rhodes must fall ». Rhodes doit tomber. Et alors évidemment maintenant avec les smartphones et les moyens de communication, il y a un tas de gens qui tout de suite ont été au courant, sont arrivés, et il y a un mouvement qui est né le jour même, 15 mars 2015, qui s'appelle Rhodes Must Fall, le mouvement. Et ce mouvement demande donc la décolonisation de l'Afrique du Sud, au point de vue, donc, il commençait par demander la suppression de toutes les statues des colonialistes blancs, des impérialistes blancs. Donc ils ont fait un sitting, enfin ça a duré un mois à peu près à l'Université du Cap, et ils ont obtenu, donc ça a été fait devant toutes les caméras de télévision, une grue est arrivée et a retiré symboliquement Rhodes. Et ça s'est répandu dans tous les campus d'Afrique du Sud. Donc il y a le mouvement qui continue et qui s'est couplé d'un deuxième mouvement qui dit « Fees must fall », donc c'est pour les droits d'inscription qui sont quand même très élevés dans... en Afrique du Sud et dans bien d'autres pays d'ailleurs. Donc ils demandent en même temps qu'on rabaisse les frais d'inscription pour les droits d'inscription pour les étudiants. Et ce mouvement prend des connotations par moment très 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 anti-blanches, donc qui fait que la population blanche maintenant d'Afrique du Sud ne se sent pas toujours très à l'aise. Alors, ils vivent dans des « gated communities ». Mais bon, il y a un certain climat de violence quand même latent qu'on ne perçoit peut-être pas quand on est simple voyageur, mais qui existe. Bon, je m'arrête, hein, parce que c'est pas le moment.
Merci, Marie.